RFI, 7h30 à Paris, 6h30 en temps universel. Le journal avec Édouard Dupénoit.
Trois jours, trois capitales, un même objectif, John Dramani Mahama tend la main de la CDAO une fois encore aux trois pays de l'Alliance des États du Sahel. Le nouveau président du Ghana était au Mali dès hier, toujours dans l'objectif avoué de ramener les trois frondeurs dans le giron ouest africain. Le Mali par ailleurs prêt à desserrer un peu l'étau sur les permis miniers la semaine prochaine, en tout cas pour les entreprises déjà présentes sur des sites bien identifiés. Nous sommes le 9 mars et la date du jour nous occupe à double titre dans cette édition. D'une part en Guinée, où cela fait 8 mois que Fony Kemenge et Biloba, figures de la société civile, ont été enlevés. Le FNDC, leur mouvement citoyen, dit ne même pas croire qu'une quelconque enquête ait été ouverte. 9 mars. D'autre part en Côte d'Ivoire, il y a 6 ans mourait Bernard Dadier, incontournable figure littéraire. Un documentaire rend hommage ce soir à son combat et à ses œuvres.
Le dossier de ce journal en Tunisie, où certains fidèles musulmans placent leur foi dans le mois de Ramadan pour arrêter la cigarette une bonne fois pour toutes.
Ou l'histoire d'un long combat intérieur que nous raconte Lilia Blaise, notre correspondante à Tunis, dans une dizaine de minutes. Mission repêchage acte 2, après une tentative infructueuse de Bassirou Diomaye Faye, un autre chef d'État ouest-africain s'emploie à rafistoler autant que faire se peut le lien AES-CDAO. John Dramani Mahama, nouveau président ghanéen, lance une série de 3 visites Bamako dès hier pour essayer à son tour de faire revenir le Mali, le Burkina et le Niger au sein de l'organisation ouest-africaine. Il n'est pas trop tard pour faire marche arrière. Les trois pays disposent encore d'un trimestre pour réintégrer sans conséquence cette CDAO. Bien qu'ils aient martelé à maintes reprises qu'ils ne feraient pas volte-face. Correspondance régionale Serge Daniel.
Le président John Dramani Mahama entend redynamiser les relations de son pays avec le Mali à l'issue de sa visite à Bamako. Il a annoncé la tenue prochaine de la grande commission mixte de coopération Mali-Ghana. D'ores et déjà, le président ghanéen a déclaré que les installations portuaires de son pays étaient à la disposition du Mali, pays qui n'a pas de façade maritime. Son offre est également valable pour les deux autres membres de l'Alliance des États du Sahel, le Niger et le Burkina Faso. Le départ de ces trois pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, fut un autre sujet de discussion. L'hôte du Mali a attentivement écouté sur le sujet le chef de la junte locale. Son commentaire devant la presse, je cite, « Il devrait y avoir un minimum de respect mutuel entre la CEDEAO et les trois pays de l'AES. » Il ajoute, « Le manque de confiance est à la base des discordes, mais nous pensons que c'est encore possible de trouver un terrain d'entente. » Fin de citation. En attendant, John Dramani Mahama est un fervent partisan de l'amélioration des relations entre les trois pays dirigés par des putschistes et l'organisation régionale. Serge Daniel, Dakar, RFI.
John Dramani Mahama qui est attendu aujourd'hui à Niamey, capitale nigérienne. Le Mali, par ailleurs, qui entrouvre la porte au retour des permis miniers. Leur délivrance est suspendue depuis 3 ans. Les militaires au pouvoir se sont engagés dans une lutte intense pour le contrôle du sous-sol et des richesses dont ils regorgent. À compter de samedi prochain, le 15 mars, les entreprises vont avoir le droit de demander le renouvellement de leur permis ou encore le passage à l'exploitation de facto, une ouverture partielle. Agnieszka Kumor, la demande de nouveaux permis restant impossible.
Au Mali, la délivrance des titres miniers a été suspendue en 2022. L'objectif du pays étant clairement celui d'augmenter les redevances. En 2023, un nouveau code minier a été promulgué. Il comprend notamment des exigences accrues en matière de contenu local, telles qu'une participation maximale de 30% de l'État dans les projets miniers, ainsi qu'une participation obligatoire de 5% des entreprises locales à ces projets. Désormais donc, l'administration minière recevra les demandes de renouvellement des permis, les demandes de passage de la recherche à l'exploitation, ainsi que les demandes de transfert des permis d'exploitation. En revanche, l'attribution de nouveaux permis reste suspendue. Il faut dire que le pays n'a reçu aucun gros investissement depuis 10 ans face à ces nouvelles contraintes, se pose la question de l'appétit des sociétés minières pour de futurs projets.
Agnieszka Kumor du service économie de RFI. Nous sommes aujourd'hui le 9 mars et cela fait juste 8 mois que 2 figures de la société civile guinéenne ont été kidnappées. Mamadou Biloba et Fony Kemenge enlevés à Conakry le 9 juillet dernier. Personne n'a de nouvelles depuis de ces cadres du FNDC, mouvement civil fer de lance dans la chute de l'ancien président Alpha Condé. Le premier ministre de transition Baouri disait cette semaine que les enquêtes se poursuivent. Une affirmation que le Front National pour la Défense de la Constitution balaye d'un revers de main. Ibrahima Diallo, responsable des opérations du FNDC, se dit convaincu que aucune enquête n'a même jamais commencé.
8 mois durant, ni l'épouse de Foniké, ni l'épouse de Bilo, encore moins les témoins directs de leur enlèvement n'ont été contactés par la justice guinéenne pour être entendus. Donc cela suppose qu'il n'y a jamais eu d'enquête ouverte, comme l'affirment les autorités. Je pense que c'était juste une fuite en avant pour servir l'opinion internationale en affirmant qu'il y a une enquête. Il n'y a jamais eu d'enquête ouverte. Et c'est pourquoi d'ailleurs, nous, la coordination nationale du FNDC, n'avons jamais encouragé les familles des victimes à porter plainte devant les juridictions nationales, parce que convaincus au regard du statut des présumés coupables, la justice ne fera absolument rien. L'affaire sera classée sans suite, malheureusement. C'est pourquoi nous comptons maintenant sur la justice internationale, puisque la disparition forcée est reconnue en droit international comme étant un crime contre l'humanité. Nous espérons que la justice sera rendue à l'international, parce que c'est un crime qui n'est pas frappé des prescriptions.
Ibrahima Diallo, responsable des opérations du FNDC en Guinée, propos recueillis par Pierre Firsion.
Une relation tout en mots doux et gestes d'amitié. Le Maroc et la France veulent montrer qu'ils filent la parfaite entente.
En témoigne encore la visite du jour, celle de Gérald Darmanin. Attendu dans le royaume chérifien, le ministre français de la Justice qui doit évoquer avec son homologue les questions de coopération judiciaire entre les deux capitales, ainsi que la lutte conjointe contre le terrorisme ou encore le trafic de stupéfiants. Tout cela donc dans un contexte où les deux pays rivalisent d'amabilité l'un envers l'autre, François Humfer Kataji.
Signe supplémentaire du réchauffement diplomatique entre la France et le Royaume du Maroc, le ministre de la Justice Gérald Darmanin va rencontrer son homologue à Rabat, Abdelatif Wahbi. Les deux hommes devraient évoquer ensemble les questions de lutte contre le terrorisme et contre le crime organisé dans un contexte de renforcement de la coopération judiciaire entre les deux pays. Ces dernières semaines ont été marquées par des succès à cet égard. À la fin du mois dernier, deux hommes soupçonnés d'être les complices du narcotrafiquant Mohamed Amra ont été interpellés à Marrakech sur demande de la France. Ils auraient participé à mettre sur pied l'opération qui a mené à l'évasion de Mohamed Amra et qui a coûté la vie à deux agents pénitentiaires français au mois de mai dernier. Dans la même veine, en janvier dernier, celui que Gérald Darmanin considère comme l'un des plus gros narcotrafiquants de France, le dénommé Félix Bingui, dit le chat, chef présumé du clan Yoda, a été extradé vers la France 10 mois après son arrestation au Maroc. Le sujet de la délivrance des laissez-passer consulaires, document permettant à la France d'expulser les immigrés illégaux ne disposant pas de passeport, pourrait aussi être abordé. Au mois d'octobre dernier, le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, avait annoncé à Rabat qu'un accord avait été trouvé entre la France et le Maroc pour, je cite, « raccourcir les délais d'expulsion des personnes sous OQTF ». François Mfer Kataji, Casablanca, RFI.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, les circonstances de l'attaque du village de Tambi commencent à apparaître un peu plus clairement plus de 3 jours après ces événements sanglants. Plusieurs sources sanitaires évoquent au moins 43 civils tués mercredi soir dans cette localité de la province du Nord Kivu dans l'est. Des miliciens Wazalendo alliés aux forces armées congolaises auraient attaqué des villageois suspectés d'avoir collaboré avec le groupe armé du M23, soutenu par le Rwanda. Vous écoutez RFI, 6h39, bientôt à Abidjan. On dit que les idées s'envolent et que les écrits restent, et c'est sans doute encore plus vrai lorsqu'elles sont portées à l'écran. Il y a 6 ans aujourd'hui disparaissait Bernard Dadier, auteur majeur de la littérature africaine contemporaine, auteur incontournable de la culture et de l'identité de Côte d'Ivoire. Ses ouvrages sont de ceux qui transmettent une histoire, des valeurs et un combat, et qui infusent encore en 2025 chez ses successeurs. L'Institut Goethe à Abidjan propose ce soir un documentaire hommage à ce pilier littéraire, Bernard Dadier, un homme de liberté. Abdoulaziz Diallo l'a vu pour nous.
À travers des images d'archives et des témoignages, le documentaire de 78 minutes revient sur la vie et l'héritage de Bernard Dadier, écrivain, poète et homme politique. Un hommage rendu à celui qui, par ses mots, a dénoncé l'oppression coloniale et chanté l'identité africaine. Franck Herman Ikra est l'un des fondateurs de la bibliothèque Archives Bernard Bellin Dadier, qui coproduit le film. Il explique l'objectif de cette création.
Le principal intérêt de ce film est pédagogique. Il vient combler une faille, un déficit de culture historique sur une période pourtant récente, celle des années 1949 constitutive du roman national ivoirien. Il s'agit d'une invitation à nous réapproprier une histoire dont nous sommes à différents niveaux les continuateurs.
De Climbier à Patron de New York, en passant par la Ronde des Jours, Bernard Dadier a marqué la littérature ivoirienne et africaine. Ses œuvres, toujours étudiées dans les écoles, continuent d'influencer de nombreux écrivains, à l'image d'Anzata Ouattara, auteur de 19 ouvrages.
Bernard Dadier est pour tout écrivain ivoirien une figure emblématique. C'est vraiment le pionnier, l'icône de la littérature ivoirienne et au-delà africaine. Il a bercé notre enfance de par ses œuvres.
Le documentaire Bernard Dadier, un homme de liberté, projeté ce soir à l'Institut Goethe d'Abidjan, sera précédé d'une présentation sur la dimension poétique des libertés dans l'œuvre de Dadier. Abdelaziz Diallo, Abidjan. RFI.
Dans le dossier de ce journal-là, à présent, on va explorer un combat de longue haleine, sans mauvais jeu de mots, que certains fidèles musulmans engagent pendant ce mois de Ramadan.
Cette lutte intérieure et personnelle contre la cigarette, puisque la journée de jeûne implique aussi de ne pas fumer, certains fidèles essayent donc de remporter pour de bon ce combat contre la clope. On l'illustre en Tunisie, où ceux qui témoignent au micro de notre correspondante racontent ce combat difficile, semé d'embûches, surtout quand arrive l'heure de la rupture. Lilia Blaise, reportage.
De bon matin, Mohamed Ali, 29 ans, a du mal à ouvrir l'œil. Une semaine après le début du Ramadan, ce mécanicien peine encore à se passer de sa cigarette matinale accompagnée de café. Habituellement, il est à un paquet et demi par jour.
C'est vrai que ce que je vais consommer le soir après le repas de rupture du jeûne, ça n'a rien à voir avec ma consommation habituelle. Je ne vais pas compenser le fait de m'être privé pendant la journée. Mais le manque reste présent, même si j'essaye chaque année d'arrêter complètement. J'arrive juste à diminuer pour le moment.
Ayman, vendeur de légumes, veut aussi arrêter, mais dit manquer de motivation.
Bon, après la rupture du jeûne, j'enchaîne 5 à 6 cigarettes, mais vu que je dois me coucher tôt à cause du travail, je ne fume pas tout au long de la soirée et lorsque je me lève, il est de nouveau temps de jeûner. Alors, corps ramadan, je peux m'enfiler jusqu'à 2 paquets de cigarettes entre la soirée et la journée.
Nizar Bahri, 55 ans et médecin, s'est lancé un défi. Fumeur depuis 30 ans, il souhaite vraiment arrêter définitivement après avoir fait une séance d'acupuncture la veille de Ramadan pour se sevrer.
Au Ramadan, on est obligé de ne pas fumer pendant la journée. Et donc, parfois, on se dit, si on peut arrêter 12 heures de temps, et pourquoi pas 24, et pourquoi pas 48, et pourquoi pas une semaine, et pourquoi pas un mois, et pourquoi pas définitivement.
Après plusieurs tentatives et rechutes par le passé, il est confiant cette fois. Ce dimanche marque son 10e jour, sans aucune cigarette. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Et parce que même la meilleure des volontés a parfois besoin d'un petit coup de pouce, certains ont même tenté l'acupuncture pour mettre un maximum de chances de leur côté. La praticienne Nadia Garbi Amara l'a bien vu, elle l'a bien constaté, cet afflux de patients juste avant le début du mois de jeûne.
Ramadan, c'est une force spirituelle qui permet de ne pas manger, de ne pas fumer, de ne pas boire, tout ça. Donc ça donne vraiment une force. Je pratique l'acupuncture pour tout ce qui est addiction. Donc l'acupuncture diminue le besoin 60 à 70%. J'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues me voir la veille de Ramadan, les quelques jours avant Ramadan. Ils me disent « Ramadan, c'est une occasion. » Déjà, on passe toute la journée sans fumer. Donc avec un peu de volonté et avec l'acupuncture qui aide énormément, on peut s'en débarrasser complètement. C'est vraiment une occasion. Et déjà, les gens qui, quand ils font la séance d'acupuncture, ils me disent « on se sent comme Ramadan les premiers jours ». C'est tout à fait l'expression que me disent la plupart des gens. C'est-à-dire qu'ils se sentent un peu fatigués parce que le tabac, c'est un excitant. L'absence de tabac va laisser un peu de fatigue. Donc, de temps en temps, ils me disent « il y a une envie », ça c'est après la séance d'acupuncture, mais qui sera gérable.
Un dossier réalisé par notre correspondante à Tunis, Lilia Blaise, Tunis, où il est juste 7h44, Marion Casanova.
Merci Edouard Dupénoy, il est 7h44 à Paris.